Bonjour, nous sommes le jeudi 11 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
La fin des certificats médicaux pour les absences d'un jour fait bondir l'absentéisme dans les grandes entreprises. Réunion de politique monétaire importante pour la BCE aujourd'hui, sans doute la dernière avant une baisse des taux en juin prochain. Après l'intelligence artificielle générative, place à l'IA générale, celle qui sera vraiment capable de penser comme un humain. L'émotion en moins. On vous explique tout ça dans cette édition. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Un gros rhume, l'estomac à l'envers ou une solide migraine. Peut-être avez-vous été malade pendant une seule journée en 2023. Si oui, vous êtes loin d'être le seul. Depuis l'année dernière, il n'est plus nécessaire de fournir un certificat médical pour un jour d'absence, en tout cas dans les entreprises de plus de 50 personnes. En 2023, le nombre d'absences d'un jour, justement, a bondi de plus de 40% par rapport à 2022. C'est ce que constate le spécialiste de ressources humaines Securex. On ne se rend pas forcément compte, mais tout cela a un impact évidemment sur les finances de l'entreprise. Comme l'explique Christine Noëlas, consultante en ressources humaines et bien-être au travail chez Securex.
On a les chiffres pour 2022 qui représentaient un coût total de plus ou moins 1 123 € par jour par collaborateur absent. Sachant que dans ce coût, ce sont les coûts indirects qui sont les plus importants, qui sont supportés par les employeurs en début de chaque absence, que ce soit de courte ou de longue durée. On entend par exemple le temps qu'il faut à chaque fois pour enregistrer l'absence par l'administration des ressources humaines, le temps pris pour retrouver un remplaçant, aussi le temps investi par les autres collaborateurs pour reprendre la charge de travail de celui qui est absent, les heures supplémentaires éventuellement aussi effectuées qui auront un impact sur la productivité de ces collaborateurs qui doivent prendre le relais.
Et même si la fréquence générale des maladie est-elle restée stable, le taux d'absentéisme régulier a atteint un record. 16% des travailleurs se sont signalés malades trois fois ou plus l'année passée. Le Parlement européen a adopté ce mercredi la vaste réforme de sa politique migratoire. En résumé, il s'agit d'un paquet de 10 législations qui durcit le contrôle des arrivées des migrants dans l'Union européenne et il devrait aussi accélérer le traitement des demandes. La réforme prévoit aussi un système de solidarité entre les États membres pour l'accueil des demandeurs d'asile. Tout ne reposera plus sur le seul pays d'arrivée, comme c'était le cas avec le très décrié règlement Dublin. Ce pacte migratoire, c'est le fruit d'un compromis délicat sur un sujet qui alimente les tensions entre les 27 depuis des années. La session plénière de Bruxelles a d'ailleurs été brièvement interrompue par des protestations de militants hostiles à cette réforme. Mais à moins de 2 mois des élections européennes, il était essentiel que les eurodéputés se mettent d'accord là-dessus. En Belgique, les ventes de vélos électriques dépassent pour la première fois celles des bons vieux vélos classiques, ceux qu'on appelle musculaires. La généralisation de l'électrification, c'est une bonne nouvelle pour les vélocistes, comme en témoigne Karl Chat, CEO de Lucien, la branche vélo du groupe D-Train.
Je crois que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que cette électrification du vélo a vraiment rendu le vélo comme outil de mobilité urbaine pleinement. Je prends l'exemple d'un vélo cargo. Le vélo cargo existe depuis des années et des années, mais je ne pense pas qu'on en voyait à Bruxelles rouler il y a 10 ou 15 ans. Mais ça existait. Par contre, le fait qu'il soit électrifié, aujourd'hui, est devenu un vrai outil de déplacement pour les gens parce que c'est clair que c'est ça qui aide à franchir certains obstacles.
Les magasins de vélo gagne des parts de marché, d'autant que l'entretien d'un vélo électrique est évidemment bien plus onéreux que celui d'un vélo mécanique. Il s'applique donc à rentabiliser sérieusement cette activité, en plus de celle des ventes. Mais le secteur du vélo fait aussi face à des excédents de stock. La fédération du secteur Traxio estimait ses surcoûts à 11% il y a un an. Karl Chat apporte tout de même une nuance à cette problématique.
Le surstock qui est aujourd'hui présent dans le marché du vélo, je dis plutôt de façon mondiale, était surtout le vélo qui a été lié au loisir. Hein. Tout l'effet Covid a entraîné une utilisation du vélo comme main. C'était un des seuls sports qu'on pouvait faire et être actif. Donc il y a eu énormément de demandes autour de VTT, vélo de course. Et naturellement, cette demande, après la fin du Covid, s'est un peu tassée, mais les usines ont continué à tourner. Donc c'est surtout les vélos loisirs qui sont aujourd'hui massivement présents dans les stocks. Il y a du stock aujourd'hui dans les vélos électriques, mais pas du tout de façon problématique. Et même sur certains modèles, on a un peu de manque d'approvisionnement aussi. C'est vraiment à voir à deux facettes.
Et puis par ailleurs, l'autre grande tendance, c'est la possibilité d'avoir un vélo de leasing dans son salaire brut, une particularité belge qui cartonne. Et donc le vélo comme rémunération est donc voué à continuer à croître à très grande vitesse. C'est finalement le duo d'acquéreurs initialement pressenti qui reprendra la plus grande partie des activités de Van Hool. Le fabricant néerlandais d'autobus VDL et le constructeur allemand de remorques Schmitz Cargo Bull se partageront ce qui reste du gâteau. Les offres de dernière minute de Guido Dumaret et Sim Capital promettaient de sauvegarder plus d'emplois, mais elles ont été jugées trop incertaines par la curatelle. Face à la multiplication du nombre de candidats, les curateurs ont un moment envisagé de faire monter les enchères, mais le néerlandais VDL a mis la pression et menacé de retirer son offre en cas de compétition. C'est finalement l'argument de la rapidité qui a primé pour la relance des activités restantes de Van Hool. Sur les 2500 emplois de l'entreprise, 1500 environ seront finalement bien perdus. La production de bus ne redémarrera sans doute pas dans les usines vieillissantes de Koningshoit, en tout cas pas à court terme. Elle sera délocalisée en Macédoine ou dans les installations toutes neuves de VDL à Roulers. La Banque Centrale Européenne se réunit aujourd'hui, mais il ne faut pas s'attendre encore à des changements de politique monétaire. Les taux directeurs devraient rester à peu près 4% pour le moment. Le but de la manœuvre est, rappelons-le, de faire baisser l'inflation dans la zone euro. En mars, elle a été ramenée à 2,4%, niveau le plus bas depuis 2 ans. On se rapproche donc de l'objectif de 2% fixé par Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Si la tendance se confirme, on s'attend alors à un abaissement des taux directeurs à partir de juin prochain. Mais quand on parle d'inflation, rien n'est jamais gagné d'avance. La preuve, aux États-Unis, les prix à la consommation ont grimpé plus que prévu le mois dernier. Ces données sont très surveillées par la Réserve fédérale américaine, qui pourrait donc patienter encore avant de baisser ses taux. Mais si la Banque centrale américaine ne les baisse pas au printemps, c'est l'euro qui pourrait en faire les frais. Les explications de notre spécialiste des marchés, Marc Lambrex.
Alors, juste après les chiffres de l'inflation américaine qui sont ressortis à 3,5% sur un an, l'euro a décroché sur le marché d'échange. Il a baissé de 1% face au dollar et c'est relativement important sur le marché. Il faut savoir qu'un euro plus faible risque d'alimenter l'inflation en augmentant le coût des importations, notamment des matières premières qui sont libellées en dollars. Donc si la Fed ne baisse pas ses taux en juin, ce qui est désormais probable, et si la BCE de son côté les diminue, cela risque de peser encore davantage sur l'euro. Et donc cela pose des questions pour l'avenir, surtout au second semestre. La BCE, qui était dépendante des données d'inflation pour ses décisions sur les taux, pourrait devenir dépendante des décisions de la Fed, et ça c'est plutôt embêtant.
Et sur les marchés, les chiffres de l'inflation US ont poussé Wall Street dans le rouge hier soir et Tokyo suivait la même tendance ce matin. Après l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, les géants de la tech se penchent maintenant sur un autre type d'intelligence artificielle, dite « générale », qui, paraît-il, possède un QI plus élevé que sa cousine. L'intelligence artificielle générale, aussi appelée IAG, c'est la tentative de créer des systèmes qui reproduisent la pensée et la capacité d'interprétation humaine. C'est une grande nouveauté. Les modèles d'IA que l'on connaît pour l'instant ont été développés pour exécuter des tâches simples et ponctuelles en produisant des séquences de mots sans vraie réflexion. Alors pour en parler avec moi, Antonin Descamps, professeur d'innovation médiatique à l'école de journalisme de l'UCLouvain, bonjour.
Bonjour.
Antonin, l'industrie se penche donc sur l'IAG, mais On est encore loin du bon technologique?
L'intelligence humaine, on sait qu'elle est multiple, qu'elle est multidimensionnelle, que le cerveau n'est pas juste un ordinateur très rapide, et heureusement d'ailleurs. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle générale ou d'intelligence artificielle de niveau humain, human level intelligence, je serais assez prudent, en tout cas, sur ce que ça recouvre. Et à mon sens, il n'y a pas, même si les intelligences artificielles génératives ont fait énormément de progrès ces dernières années et ces derniers mois en particulier, il n'y a pas, à mon sens, de progrès significatif nous permettant d'établir l'existence d'une intelligence artificielle de niveau humain ou d'une intelligence artificielle générale qui, à mon sens, reste à définir.
Alors, ceci dit, ces derniers temps, on voit fleurir de plus en plus d'images, même de vidéos assez convaincantes, générées par de l'intelligence artificielle. C'est le cas, par exemple, de Channel One, une chaîne info exclusivement orchestrée par l'IA. Eh bien, ça, c'est justement le résultat de l'IAG, l'intelligence artificielle générale, une technologie pour laquelle la course au développement est donc bien lancée. Mais à quoi peut-elle servir au juste, Antonin ?
De faire de la planification, de découper un problème en une succession de petits problèmes moins complexes que l'intelligence artificielle serait en mesure de résoudre, hein, ce qu'on appelle parfois l'objective-driven AI, c'est-à-dire donner un objectif complexe et parvenir à faire en sorte qu'une machine puisse le résoudre. À ce niveau-là, il n'y a pas encore, à ma connaissance du moins, de technologie qui serait en passe d'accomplir cette prouesse. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, je suis même assez convaincu que ce sera le cas dans l'avenir. Maintenant, je ne me garderai bien de faire des pronostics. Je pense simplement que ce n'est pas pour tout de suite, malgré les performances qu'on observe sur l'intelligence artificielle générative à ce stade.
Saviez-vous qu'une université belge proposait l'un des meilleurs programmes au monde en théologie et études religieuses ? Il s'agit de l'UC Louvain. C'est ce qui ressort du classement annuel de l'organisme QS World University Ranking sur les meilleurs cursus universitaires du monde entier. Selon ce classement, la KU Leuven est l'université la plus performante en Belgique et 4 universités belges peuvent se vanter de proposer des programmes parmi les 50 meilleurs au monde dans leur discipline. Côté francophone, le programme politique et études internationales de l'Université libre de Bruxelles se classe en 45e position des meilleurs cursus en la matière. Globalement, la Belgique est plutôt bien classée à l'échelle européenne. Nous sommes 8e, juste devant le Danemark et derrière la Suède. Puis si vous voulez connaître tous les détails de cette étude, je vous glisse le lien dans les notes de cet épisode. Et c'est ce matin que sera dévoilée la sélection officielle du prochain Festival de Cannes qui se tiendra du 14 au 25 mai, à suivre sous nos différentes plateformes. Merci à Ondine Ouérès et Brian Momart pour la préparation de cet épisode. On se retrouve demain. Bonne journée.